Louis Albrand a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral, nous retrouvons Louis Albrand, bonjour.
Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un réformateur très important, qui est à la base, on pourrait dire, de la religion protestante, qui a travaillé avec Calvin et les plus grands réformateurs. Je veux parler de Guillaume Farel, né en 1489, mort en 1565. J'ai rencontré Farel pour la première fois, du moins sa statue, à Genève, dans le fameux mur des réformés. On le voit là, à côté de Jean Knox, de Bèze, Calvin, et tant d'autres grands réformateurs. Farel est né à Gap, plus précisément dans le Champsaur, on peut dire, près de Saint-Bonnet, dans un petit hameau que l'on appelle... En fait, il y a une grande interrogation à l'endroit exact où il est né. Il est issu d'une famille de notables, de notaire, puis part à l'âge de 20 ans étudier à Paris où il fréquente le grand collège du cardinal Lemoine. Et là, il a une rencontre déterminante pour sa vie, c'est Lefèvre d'Étaples, qui est un grand intellectuel de l'époque, ainsi que l'évêque Guillaume Brissonnet. Tous deux vont lancer une expérience évangélique, c'est la réforme, ils vont retrouver l'origine des évangiles. Il est bien sûr condamné par la Sorbonne, mais c'est un prêcheur très fervent, et il va continuer, donc, sous l'œil vigilant de ses maîtres, à propager, on peut dire, la réforme. Il est un inlassable prêcheur, intolérant, ardent. C'est un homme maigre, au visage peu avenant, qui possède néanmoins un magnétisme auquel nul ne peut résister. Il quitte Paris après avoir fait un séjour à Meaux et rentre à Gap. Et là, il pratique la conversion à la religion réformée de toute sa famille. Il écrit un ouvrage fameux qui s'appelle « Le glaive de l'esprit » et il commence à être très connu. D'autres familles plutôt aristocratique, parente ou alliée, les Bonnes, seigneurs de Diguières, d'où sortira Lesdiguières avec qui il a des liens de parenté, les Montorcier, seigneurs de Montorcier et de Sigoyer, les Montauban, les seigneurs du Villard, les Rambaud, seigneurs de Furmeuillet et de Montgardinet, et d'autres encore, vont grâce à lui embrasser le protestantisme. À partir de 1534, tous ces gens-là, toute sa famille va quitter Gap car ils sont menacés à cause de leur foi nouvelle. Leur bien, le bien des Farel, après être passé dans le patrimoine d'un cousin, appelé Rambaud, ils sont vendus. Et à partir du 11 juillet 1556, ils vivront tous en Suisse. Farel est un homme qui vit sa vie comme si c'était le dernier jour. Chaque jour, pour lui, était le dernier jour. Après avoir quitté Paris, Gap, on le retrouve partout, dans le Piémont, à Bâle, à Berne, à Metz, en Allemagne, dans les Flandres, à Neuchâtel surtout, où il va avoir une grande action et établir la réforme dès 1530. Mais Genève est important pour lui car il y rencontre Calvin, et Calvin qui lui aussi a dû fuir Paris et la faculté de théologie à cause de ses nouvelles convictions. À partir de 1526, Farel décide donc de s'attaquer à l'évangélisation de la Suisse. surtout la Suisse romande. Tâche difficile, car avec Calvin, qui est de 20 ans l'aîné de Calvin, il a une certaine influence sur lui. Puis ensuite, Calvin, on le sait, prendra beaucoup plus d'importance. Il aura d'ailleurs une politique beaucoup trop répressive, avec, on s'en rappelle, les bûchers, où il condamne Michel Servet, l'Espagnol, etc. Et Calvin va un peu se déconsidérer par sa trop grande rigueur. Les temps sont durs. En juillet 1561, un édit interdit la prédication en public. Il rentre à Gap. Le vice-bailli de Gap est un certain Ollier de Montjeu, le fait mettre en prison quelque temps. Il se rend ensuite à nouveau en Suisse. Et là, il a une vie de prêcheur itinérant. Il a, on l'a dit, une grande action de prêche à Neuchâtel. Il se rendra néanmoins à nouveau à Genève pour assister aux derniers jours de Calvin. Donc, c'est un homme prédestiné à prêcher, victime souvent de ses excès de langage, et il rentre à Neuchâtel après avoir vu Calvin, et quelques mois plus tard, il meurt lui aussi. Calvin est heureux que son cher ami Haut-Alpin soit venu assister à ses dernières heures.
Merci beaucoup, Louis Albrand, à bientôt.